Chers auditeurs et chères auditrices,
oula.
Rien sans doute n'est jamais définitivement acquis dans l'enquête menée par les historiens pour reconstituer ne serait-ce que la succession des événements passés. Et cela est particulièrement vrai en histoire hellénistique, où il faut construire l'édifice pièce à pièce avec le risque permanent de voir s'écrouler un pan de mur qui paraissait pourtant solidement fondé. Mais cela ne signifie pas non plus que toutes les positions se valent. Celui qui a parlé en dernier ne recueille pas, ne doit pas recueillir automatiquement l'approbation de la communauté scientifique. Chaque proposition nouvelle suscite de la résistance, et c'est bien ainsi, à condition que la prudence ne soit pas un oreiller de paresse. Il faut se donner la peine d'examiner et de peser les arguments avec l'esprit ouvert à la nouveauté, mais en exerçant à fond, en même temps, son esprit critique. C'est ce que j'ai essayé de faire face à une étude toute récente menée par Madame Julia Scheer, fille de l'éditeur, en 1978, du fameux décret athénien pour Callias. Cette historienne, en effet, a voulu remettre à l'honneur la chronologie que Scheer avait pensé pouvoir proposer du soulèvement d'Athènes contre le roi Démétrios, qui n'aurait eu lieu qu'à l'été 286, alors que des voix très autorisées s'étaient aussitôt prononcées avec de solides arguments à l'appui pour une date plus haute, soit le printemps 287. Bien faible écart, me direz-vous, pour un événement remontant à un passé plus de deux fois millénaire. Mais la précision chronologique ne doit pas être l'apanage des périodes modernes et contemporaines. Il n'y a aucune raison pour que les historiens de l'Antiquité se contentent de datations molles, approximatives, quand ils ont les moyens de faire mieux. C'est, et on le voit par l'histoire la plus actuelle, celle qui se déroule sous nos yeux, qui nous montre combien il est capital d'avoir une connaissance précise de la succession et de l'enchaînement des événements. Et cela surtout, bien sûr, lorsqu'il existe un véritable enjeu historique dans la fixation d'une date, comme c'est assurément le cas ici, puisque, je le relevais en achevant ma leçon de la dernière semaine, va dépendre de cette datation l'explication même à donner d'un fait extrêmement singulier dans l'histoire d'Athènes, la très probable non-célébration en 286 de la principale fête religieuse et politique de la cité, à savoir les grandes Panathénées, qui, selon un cycle quadriennal immuable, devait avoir lieu, effectivement, à l'été de cette année-là. Le point de départ de l'article de Madame Scheer, paru tout récemment, en 2010, dans un volume d'hommage dédié à l'épigraphiste américain Stephen Tracy, est un passage crucial décret pour Callias. Vous l'avez, ce passage, dans votre dossier. En effet, aux lignes 55 et suivantes, après avoir rapporté en détail les mérites du personnage, honoré d'abord lors de l'attaque de Démétrios contre Athènes, insurgé, puis pendant les années immédiatement consécutives à cet événement mémorable, le document fait état d'une ambassade religieuse, Théoria, assumée par ce patriote quand, je cite, « le roi Ptolémée célébra pour la première fois, Protone, la fête des Ptolémaïa en l'honneur de son père. » Fin de la citation. Mais Callias ne s'en tint pas là en matière d'affaires religieuses. On voit, aux lignes 64 et suivantes, il est dit comme le peuple d'Athènes s'apprêtait alors de son côté à célébrer la fête des Panathénées, et cela pour la première fois depuis que la ville avait été récupérée, la fin de la phrase est dans votre dossier, « melontos poien af ou to astu eke comisto », Callias eut une entrevue avec le roi, dont il était le familier, et obtint de lui une aide financière pour la confection du matériel nécessaire à la présentation du peplos, c'est-à-dire donc, du vêtement sacré, offert solennellement à la déesse en cette occasion. Passage extraordinairement intéressant, qui songerait à le contester. Mais au nombre des problèmes qu'il pose, l'un est de nature chronologique. Combien de temps après la libération de la ville, eut donc lieu cette première célébration des Panathénées. Un accord, chez les érudits, s'est plus ou moins fait sur la date de 282, année régulière de grande Panathénée, 6 mois à peine après l'avènement du nouveau Ptolémée, de Ptolémée II, Philadelphe, en Égypte. Mais ce faisant, on butait tout de même sur 2 sérieuses difficultés. D'une part, comment admettre que le nouveau roi ait pu en si peu de temps au lendemain de la mort de son père, fin 283, organiser une fête de l'ampleur des Ptolémaïa, impliquant des va-et-vient à travers tout le monde grec, et un célèbre décret dit de Nicouria, réalité d'Amorgos, montre du reste que les cités insulaires, en tout cas, n'acceptèrent pas ce nouveau concours panhellénique avant 280. Et comment expliquer, d'autre part, qu'Athènes ait pu ne pas célébrer la grande fête des Panathénées l'année qui suivit sa libération, soit en 286 déjà. Aussi, un jeune savant allemand, Boris Dreyer, fut-il amené à défendre dans sa thèse de 1999 une solution qui consistait à restituer l'adverbe triton, pour la troisième fois, en lieu et place de proton à la fin mutilée de la ligne 64. Ce ne serait donc pas pour la première, mais seulement pour la troisième célébration des Grandes Panathénées que Callias aurait sollicité à Alexandrie l'aide du fastueux Ptolémée II. Dès lors, tout rentrerait dans l'ordre, on pourrait dater la chose de 279-78, les Athéniens n'auraient donc jamais failli à leur devoir de fêter leur déesse, pas plus en 286, première fois depuis la libération, qu'en 282, deuxième fois. Quant au roi, il aurait eu tout le temps nécessaire pour faire accepter par la communauté grecque le nouveau concours sacré des Ptolémaïa, mis au même rang que les concours panhelléniques d'Olympie et de Delphes. Cette ingénieuse restitution, pourtant, est à coup sûr erronée. Et pas seulement pour les raisons que j'avais fait valoir l'an dernier, rapidement, l'invraisemblance en particulier qu'il y aurait eu à compter les célébrations écoulées si aucune interruption du cycle n'avait eu lieu, mais parce que Julia Schier, en scrutant la grande selle de Callias avec l'énergie du désespoir ou celle de l'espérance, a pu déchiffrer quelques lettres supplémentaires qui assurent la lecture proton en excluant triton. Il convient donc de féliciter sans réserve cette chercheuse pour son acharnement épigraphique. Est-ce à dire qu'on doit la suivre dans la manière dont elle propose d'expliquer le renoncement des Athéniens à célébrer leur grande fête de l'été 286. Certes, elle me paraît avoir raison de penser que seule une cause d'une gravité exceptionnelle put conduire la cité à manquer à une obligation pourtant contraignante à l'égard de la divinité. Mais je crois qu'elle fait fausse route en cherchant cette cause dans la date même de la libération d'Athènes. Elle pense en effet pouvoir en revenir tout simplement à la chronologie paternelle, si l'on peut dire, la chronologie du premier éditeur, selon qui, on vient de le rappeler, le siège de la ville par Démétrios serait à placer dans l'été 286, donc juste au moment où l'on aurait dû célébrer la grande fête des Panathénées à la fin du mois attique Hécatombaïon, donc à peu près août dans notre calendrier. Car, outre qu'elle n'a pas cru devoir entreprendre même la réfutation des très sérieuses objections faites par Habicht et d'autres à cette chronologie sensiblement trop basse, Madame Schier est passée à côté, comme tout le monde d'ailleurs, me semble-t-il, de la vraie raison qui dut dicter la conduite bien insolite des Athéniens en cet été 286. En effet, quelle qu'ait pu être alors leur difficulté d'ordre financier, sur lesquels l'éditeur du décret de Callias croyait devoir beaucoup insister pour expliquer leur surprenante décision, ce n'est pas le manque de moyens ou de blé, ou même la vétusté des oplats pour le peplos sacré qui put les détourner d'honorer Athéna archégétis thespoléos. Non, comme on l'avait entrevu l'an dernier, l'obstacle a été de nature religieuse. C'est que la fête des Panathénées devait être celle de la cité tout entière, unie dans le culte de sa déesse fondatrice et tutélaire. Or, à cette date, en dépit de la libération de l'Astu, de la ville, la police athénaïon n'était qu'un moignon de cité, privée qu'elle était de son port et de ses places fortes. En 282 encore, les Athéniens n'avaient certainement pas récupéré le Pirée. On verra qu'ils n'y parvinrent qu'un peu plus tard. Et c'est pourquoi, je pense, la première célébration des Panathénées, Proton, car, encore une fois, sur ce point, je donne entièrement raison à Madame Schier, Kondrayer et d'autres, n'eut pas lieu en 286, ni non plus en 282, contrairement à ce qu'elle croit pouvoir admettre aujourd'hui, avec une majorité de spécialistes, dont justement Christian Habicht, mais seulement en 278, quelques mois après la première et somptueuse célébration des Ptolémaïa, qui coïncidait d'ailleurs avec le premier anniversaire pentétérique, 4 ans après, de la mort du roi divinisé Ptolémée Sauter. Notons d'ailleurs que telle était bien, sur ce point, la position de l'éditeur du décret de Callias. Un des avantages, et non le moindre, de cette chronologie, c'est qu'elle permet de répartir plus harmonieusement la séquence des services rendus par le personnage durant une vingtaine d'années. Comme le montre le texte schématique qui est en annexe du dossier, les considérants s'ouvrent par son action principale au moment de l'épanastasis, du soulèvement de 287 contre Démétrios. De son activité antérieure, plus discrète mais non moins honorable, il n'est en effet question qu'à la fin du décret, car elle se résume à son refus de composer à partir de 294, sans doute, avec le régime oligarchique imposé par le nouveau maître d'Athènes, d'où très probablement sa décision de s'engager au service du roi d'Égypte. En tout cas, en 287, c'est sur l'ordre de Ptolémée, on l'avait vu, qu'il se trouve sur l'île d'Andros, à la tête d'un détachement de 1000 hommes, prêt à intervenir de là en Attique pour secourir ses compatriotes à la veille du siège de la ville. Puis toujours en 287, vient son rôle dans la conclusion d'une paix entre le roi Démétrios et le représentant de la monarchie Lagide, puis son envoi peu après, vers 286-285, à la cour du vieux Ptolémée, avec d'autres ambassadeurs athéniens, puis étant de retour quand Ptolémée II succède à son père décédé, donc dans l'hiver 283-82, alors que la situation de la ville était difficile, sinon même critique, une seconde députation pour obtenir du blé, sa rencontre avec le nouveau roi en 282 sur l'île de Chypre, son retour à Athènes avec les 20 000 mesures, les 20 000 médimnes qui transitèrent par Délos, puis, et c'est le passage qui a retenu notre attention il y a un instant, son acceptation de conduire à la demande de sa patrie l'ambassade sacrée, la Théoria, auprès de ce roi pour la première célébration des Ptolémaïa, son nouveau voyage à Alexandrie, donc suite d'événements qui, pour un lecteur non prévenu, ne sauraient avoir eu lieu dans cette même année 282, mais doit à l'évidence être reporté 3 ans plus tard, donc seulement dans l'hiver 279-8, quand les Athéniens s'apprêtaient eux-mêmes à reprendre, parce que désormais plus rien ne s'y opposait, le cycle des grandes Panathénées. Enfin, est évoquée la situation actuelle du personnage honoré, qui restait toujours au service de Ptolémée, commande désormais la place d'Halicarnasse en Asie mineure, où il peut continuer à servir d'intermédiaire entre Athènes et le roi d'Égypte, cela dans le courant donc, des années 270. Puisque, et il ne faut pas l'oublier, on le rappellera encore, c'est seulement dans l'hiver 270-69 que Callias fut enfin récompensé sur proposition du démocrate Œil Carès pour tous les services rendus à sa cité. Mais revenons maintenant à l'année attique 282-1, dont il va s'agir de mettre en lumière l'importance exceptionnelle. Au printemps 282, la situation d'Athènes reste très critique, notamment sur le plan frumentaire, comme l'atteste, on vient de le voir, la mission confiée par les stratèges à Callias de solliciter à nouveau l'aide de Ptolémée. Mission dont il parvient à s'acquitter avec succès grâce à ses accointances avec le roi. Mais si l'état des choses tend à s'améliorer à partir de ce moment, le progrès n'est pas tel que l'on ait pu songer à célébrer les grandes Panathénées dès l'été de cette année-là, puisque il ne fait aucun doute que le Pirée demeurait alors au pouvoir des Macédoniens. Tout le monde est d'accord sur ce point. La divergence d'opinion ne porte encore une fois que sur la question de la célébration ou non des Panathénées quadriennales à cette date. Beaucoup pensent que la grande panégyrie en l'honneur d'Athéna put et dut, malgré tout, avoir lieu. Le lecteur d'Athènes hellénistique pourrait même être induit à penser que la reprise de la fête se produisit dès avant 282, puisque dans l'édition française, on lit que le poète Philippides de Képhalais, honoré en 283 par un célèbre décret, riche en informations sur l'histoire d'Athènes depuis 301, avait donné l'année précédente, en assumant la gonothésie ou présidence des concours, un éclat tout particulier à la fête des Panathénées, page 145. Mais il convient de faire observer que dans la version allemande originelle de son ouvrage, Christian Habicht était moins précis. Il ne parlait que des fêtes dont Philippides était occupé en général, « den Feiern besonderen Glanz gegeben hatte ». Si, en tant que traducteur, nous avons cru pouvoir aller plus loin dans la précision, c'est en considération du fait que, précédemment déjà, sous l'Archonta d'Euctémon, c'est-à-dire en 299-8, le même Philippides s'est entremis auprès du roi Lysimaque pour la confection de la vergue et du mât, Keraia kai histos, destiné à porter le peplos lors des grandes Panathénées de l'été 298. À cette date, en effet, il fallut remplacer les eaux plats, les gréments du vaisseau sacré, endommagés par une tempête lors de la précédente célébration, celle de 302, laquelle était placée sous le haut patronage des rois Antigone et Démétrios, dont la figure apparaissait même sur le peplos. Et c'est pourquoi, très certainement, on jugea approprié de demander au principal ennemi des Antigonides de veiller à la fourniture de nouvelles pièces non souillées par la démesure, par l'hubris de ces rois. Mais ce n'est à coup sûr pas une raison pour penser que Philippides, une fois de retour à Athènes, après 287, eut le privilège de célébrer les grandes Panathénées, ni même les petites, en tant qu'agonothète. Il y avait bien d'autres concours à organiser sans cela. Alors, l'édition française serait donc à rectifier légèrement sur ce point. Le décret voté pour ce bienfaiteur apporte en revanche une information générale de grand intérêt sur la question de savoir quand Athènes put récupérer ses forteresses. On n'y est pas encore. Occupées pour la plupart en 286 par des garnisons macédoniennes que le roi Démétrios, en partant pour l'Asie l'année précédente, avait laissé en Attique, comme aussi sous la haute surveillance de son fils, le futur Antigone Gonatas. Car Philippides, dès après son retour à Athènes, sollicita et obtint du roi, Lysimaque, l'aide frumentaire et financière dont ses compatriotes avaient besoin pour, je cite, je ne sais pas si le texte est là, il a disparu, pardon. Je cite donc « que le peuple demeure libre et qu'il recouvre le Pirée, comme aussi les forteresses, le plus vite possible. » Oppose « an diamenei odemos eleutheros on, kai ton peirea, comisetai, kai ta fruria, Hostakistan. Il est certain que la politique athénienne enregistra des succès à cet égard, mais dans l'état actuel de nos connaissances, le détail des opérations nous échappe encore, même quand la documentation est relativement abondante, comme c'est le cas à Eleusis, à Sounion et surtout à Ramnonde, qui est la mieux connue actuellement de ces forteresses grâce à la publication très éclairante de Vassili Petrakos, à qui j'emprunte quelques images du plan de la forteresse et du bourg, avec le sanctuaire qui serait en bas vers le sud, le sanctuaire de Némésis, une vue d'une reconstitution partielle en bordure de la muraille, car les ruines sont abondantes, et une vue aussi qui montre la position stratégique de la forteresse, puisqu'elle contrôle un passage entre l'Attique et l'île d'Eubée. Chacun de ces dèmes fortifiés, sans parler des forteresses isolées, eut peut-être alors un destin particulier dans cette reconquête. Pour ce qui est de Ramnonde, un célèbre décret nous a appris, voici maintenant plus de 40 ans, on l'étudiera la semaine prochaine, que la garnison était à nouveau commandée par un stratège athénien régulièrement élu quand éclata la guerre dite de Crémonides en 268 avant Jésus-Christ. Mais depuis quand ? Entre 287 et 268. Cela reste du domaine de l'hypothèse, bien que l'on puisse admettre avec vraisemblance, elle est du moins mon opinion, que les Macédoniens durent quitter les lieux assez vite, et sans doute de leur propre mouvement, à peu près en même temps que la garnison installée par Démétrios en face à Érythrée décida de se retirer de cette ville eubéenne, dont le territoire jouxte, pour ainsi dire, la forteresse de Ramnonde. En effet, j'ai montré ou essayé de montrer que cet événement eut lieu précisément en 286 ou 285. Quant à Sounion, d'aucuns estiment que cet important Frourion, situé donc à la pointe sud de l'Attique, contrôlant par là tout le trafic entre le Pirée et la mer Égée, n'échappa à aucun moment durant ce long intervalle à la tutelle macédonienne. Mais cette opinion me paraît un peu excessive, dans la mesure où elle suppose que le statut du Pirée ne bougea pas, alors même que, par ailleurs, le roi de Macédoine perdait assez vite, après 287, sa domination sur la mer Égée au profit des Ptolémées. Reste Éleusis, si proche de la ville, avec son sanctuaire des deux déesses, fréquenté par une foule d'Athéniens lors des petits et des grands mystères. Le décret pour Philippides, toujours lui, a paru fournir un indice très intéressant pour fixer la date de l'expulsion de la garnison macédonienne et du retour de la forteresse sous l'autorité de la cité. En effet, au chapitre des bienfaits, de nature religieuse, rendu par cet excellent citoyen, qui était commodos de profession, poète comique, on trouve aux lignes 43 et suivantes, juste après un passage resté, vous le voyez, énigmatique jusqu'ici, mais pour lequel existe, je pense, une solution simple proposée l'an dernier en séminaire, la mention d'un concours en l'honneur de Déméter et Corée, que Philippides, non content de s'acquitter avec générosité de toutes les charges liées à sa fonction d'agonothète, de président, eut l'initiative d'ajouter à ses frais « Epitheton agona kateskeiasen te Démétri te Corée » en guise de mémorial de la liberté du peuple « Pomnema testu demu eleuterias ». Or, cette création est daté de l'année 284-3, l'archonta d'Isaios. On a donc assez naturellement inféré de cette phrase que le sanctuaire d'Éleusis, avec la forteresse attenante, était revenu sous l'autorité de la cité avant l'été 283. Tout récemment, cependant, le spécialiste des inscriptions d'Éleusis, l'Américain Kevin Clinton, a fait savoir que cette inférence, indice, était à ses yeux sans valeur, puisque manifestement le concours en question ne fut pas célébré à Éleusis même, mais en ville d'Athènes, où il existait de fait, dans ce secteur de l'Agora au sud, un Éleusinion, un sanctuaire, donc une espèce de succursale du grand sanctuaire d'Éleusis. L'observation me paraît pertinente et il convient d'en prendre acte. De fait, la reprise d'Éleusis n'eut lieu que plus tard. Ce succès, quelle qu'en ait été la nature, militaire ou diplomatique, était mis au compte notamment du démocrate Démocharès de Leuconoé, revenu d'exil en 286-5 sous l'archontat de Dioclès, comme nous l'enseigne le projet de décret, vous l'avez dans votre dossier, voté en son honneur. C'est un texte certainement authentique, même si il n'a été conservé que dans la vie des orateurs du pseudo-Plutarque. Démocharès réussit, je cite, à ramener Éleusis, commissa menos, pour le peuple, phrase où l'on notera l'emploi du verbe komitzain, komitzestai, très caractéristique de cette époque, qui fit de la récupération territoriale, on peut dire, une des tâches prioritaires du gouvernement de la cité. La date exacte n'est pas indiquée, mais le contexte semble significatif. C'est au terme de plusieurs ambassades, mentionnées dans le texte, destinées à récolter des fonds auprès de divers rois ou quasi-rois, que Démocharès est dit avoir réalisé ce haut fait. Sont mentionnés Lysimaque, d'abord, sans doute un peu avant 285, puis Ptolémée, il peut s'agir aussi bien du premier que du second, donc aux alentours de 284, 3 ou 2. Antipatros, pros antipatron. Ce dernier nom fait problème, car vers 280, à la fin des années 80, il n'y a pas de souverain régnant portant ce nom. Seul, dès lors, a semblé pouvoir être pris en considération un neveu du défunt roi Cassandre, mort depuis plusieurs années, qui n'accéda à la royauté macédonienne qu'en 279 et pour 45 jours seulement. D'où le surnom d'Antipatros Étésias, qu'il reçut post-mortem par référence aux vents d'été, les vents étésiens. Mais est-il bien vraisemblable que Démocharès, envoyé par Athènes, soit allé trouver cet éphémère roi de la canicule, hein, cette bourrasque, quand la Macédoine était alors elle-même de surcroît en pleine décomposition face à l'invasion celtique? La solution de rechange défendue naguère par Gabriele Marasco dans une monographie intéressante sur Démocharès de Leuconoé n'est guère plus attrayante, qui suppose que cet Antipatros peut être sollicité par Athènes antérieurement, alors qu'il se serait trouvé encore à la cour du roi Lysimaque, chose dont il n'y a pas le moindre indice dans nos sources. La véritable solution suggérée naguère autrefois par De Sanctis me semble être ailleurs. Antipatros n'était pas un roi, mais un homme alors néanmoins très puissant en l'absence du roi Antigone, à savoir le chef de la garnison macédonienne du Pirée, que l'on connaît grâce à un papyrus d'Herculanéum en rapport avec une mésaventure, on en reparlera la semaine prochaine, survenue au philosophe Épicure vers 280. Cet Antipatros avait succédé, en effet, vers cette date, à un autre Frourarchos, chef de garnison, Héraclides, qui nous est connu par ailleurs. Le commandant avait une certaine marge de manœuvre et il put accorder aux Athéniens une remise sur la somme fixée. Ce seraient donc les 20 talents qui sont mentionnés, obtenus de lui par Démocharès. Ce qui est sûr, car on en a aujourd'hui la preuve, c'est qu'à l'époque même où se déroulèrent ces négociations sur la cession d'Éleusis, le roi Antigone Gonatas n'était pas en Grèce. Un décret de Ramnonte, encore inédit, dont je dois ici la connaissance fois encore, à son inventeur, M. Vassili Petrakos, évoque en effet, avant d'en revenir, voilà la stèle inédite, avant d'en venir au service rendu plus récemment à la communauté de Ramnonte, évoque les anciens bienfaits dont la cité tout entière était redevable au personnage honoré, l'homme politique Aristeides de Lamtrae. Or, après avoir joué un rôle éminent lors de la libération de la ville, le début est difficile, Aristeides avait été député jusqu'en Asie. Eisten Asian, avec d'autres ambassadeurs, Meta ton sum presbyton, auprès d'Antigone, proche Antigone. Ambassade au terme de laquelle il put récupérer Eleusis et commissato ten Eleusina. C'est du même événement qu'il doit nécessairement s'agir dans les deux documents, seul le point de vue change, le décret pour Aristeides et le décret pour Démocharès. Or, la mention certaine dans l'inscription de Ramnonte de l'Asie comme résidence, évidemment temporaire, d'Antigone, met hors de doute que la récupération d'Eleusis se produisit au plus tôt en 281, au plus tard en 279, car c'est alors qu'Antigone, ayant échoué à se rétablir en Macédoine, alla tenter sa chance dans une Asie mineure en pleine ébullition après la bataille de Kouroupédion début 281 et la mort à quelques mois d'intervalle des deux derniers diadoques d'Alexandre, Lysimaque et Séleucos. On sait en effet que peu de temps après, Antigone conclut une paix durable avec son beau-frère, le nouveau roi de Syrie. On a une mention chez l'historien Justin, livre 25, Inter duos reges statuta pace, c'est-à-dire donc Antiochos Ier, tout fraîchement monté sur le trône paternel, cet Antiochos qui, on s'en souvient sûrement, était tombé éperdument amoureux de sa marâtre, la belle Stratonis. Voilà donc la conjoncture d'ampleur internationale, peut-on dire, où les Athéniens purent enfin remettre la main sur la place forte d'Eleusis. Et l'événement ne fut pas sans conséquences, à brève ou à moyenne échéance, sur le plan des institutions, puisque, une fois en possession de toutes leurs forteresses, ou disons de la plupart d'entre elles, on put songer à un nouveau découpage des tâches dévolues à certains des 12 stratèges. Certes, les titres de stratégos epiten koran ten epelusinos, secteur de commandement l'Ouest, qui englobait les forteresses de la montagne, celles de Panacton et de Philae, et de l'autre côté de stratégos epiten koran ten paralian, stratège de la Paralie, stratège de la affecté à la défense de la côte, depuis Ramnonte jusqu'au Sunion ou à Taurikos. Ces nouveaux titres, disais-je, n'apparaissent pas avant le tournant des années 270-260 dans l'épigraphie attique. Mais les inscriptions actuellement connues ne prouvent pas non plus qu'ils n'existaient pas déjà 10 ans plus tôt. En attendant de nouvelles données, qui viendront sûrement un jour ou l'autre, c'est le sort du Pirée aux alentours de 280 qui doit maintenant retenir toute notre attention. Car la question du Pirée a été et reste la bouteille à l'encre de l'histoire d'Athènes à la haute époque hellénistique. Il y a encore sur ce point, et depuis un siècle, des accords profonds, apparemment irréductibles, entre les érudits. Or, ce désaccord a des répercussions très importantes sur la vision même que l'on peut avoir de la du destin de la cité au IIIe siècle, puisque le problème des rapports entre Athéniens et rois de Macédoine est au centre des débats qu'entretiennent les spécialistes de cette période, comme il était déjà au cœur des préoccupations des hommes politiques de l'époque. Pour un nombre important d'historiens, et parmi les plus autorisés, le Pirée demeura sans interruption sous contrôle macédonien, en dépit de tous les efforts des Athéniens pour le récupérer. Puisqu'il était encore sous contrôle, nous dit-on, au début de la guerre dite de Crémonides, opposant à partir de 268 la cité au roi Antigone Gonatas, et qu'il le resta pendant toute la durée du conflit, continuant bien sûr à l'être après que le roi de Macédoine alors eut réussi en 262, on y reviendra, à replacer la ville même d'Athènes sous son autorité. Défendu avec talent en 1927 par l'Italien Gaetano De Sanctis, un des pères fondateurs, peut-on dire, on l'avait marqué l'an dernier, de l'historiographie moderne de l'Athènes hellénistique, cette opinion a été reprise et développée avec des arguments nouveaux par Habicht dans ses Untersuchungen de 1979, puis adoptée naturellement dans sa synthèse plus récente en allemand, puis d'autres langues. On relèvera d'emblée un paradoxe dans la position du grand historien. C'est que nul mieux que lui n'a montré combien fut important et continu après 287 l'effort des Athéniens pour empêcher tout retour des Macédoniens, pour rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire attique, pour conduire des réformes militaires, pour donner un nouvel éclat aux fêtes et aux concours qui faisaient le prestige d'Athènes dans le monde grec. Or, selon lui, les patriotes athéniens n'auraient échoué que sur un point, mais d'importance majeure, la récupération du Pirée, qui se serait révélé être un verrou imprenable, chose dont il aurait fallu, donc, bon gré mal gré, s'accommoder. De même que les Allemands de la génération de Habicht, lequel avait un peu plus de 20 ans, à l'époque de la construction du mur de Berlin en 1949, s'était progressivement résigné à la présence de cette barrière quasi infranchissable à l'intérieur même de leur pays. Si une telle chose a pu exister si longtemps à l'époque contemporaine, et de fait, en 1979, personne ne se serait aventuré à penser que ce mur, 10 ans plus tard, allait tomber en quelques heures sans effusion de sang. Pourquoi, en effet, ne pourrait-on pas admettre qu'une telle séparation d'Athènes et du Pirée, entre la ville et son port militaire et marchand, n'aurait pas pu se prolonger, elle aussi, pendant un quart de siècle, de la libération d'Athènes en 287 à sa capitulation en 262. De bons esprits, pourtant, ont mis en doute, jadis ou naguère, qu'ait pu durer aussi longtemps une situation aussi insolite, qui certes avait pu se rencontrer à une ou deux reprises dans le passé athénien, mais pour un temps, somme toute, fort court, quelques mois tout au plus, ainsi en 318-317. Il faut bien voir en effet que le désaccord des modernes ne porte absolument pas sur la réalité du fait, mais seulement sur sa durée. On a noté tout à l'heure que les Athéniens, dans les années immédiatement consécutives à 287, furent à coup sûr placés devant la nécessité vitale de récupérer, par quelque moyen que ce fût, ce port du Pirée que tenait une garnison macédonienne, demeurée aux ordres du roi Démétrios, bien que celui-ci fût, dès 285, retenu en captivité bien loin de la Grèce par le roi Séleucos. Du vivant encore de Démétrios, il y eut d'ailleurs un coup de force athénien contre le Pirée, attesté par Pollien dans ses Stratagemata, livre 5, compilation tardive, certes, mais fondée en l'occurrence sur de bonnes, voire de très bonnes sources. Cet auteur mentionne en effet plusieurs noms, celui du commandant Héracléides, de son adjoint Hiéroclès, et aussi des deux stratèges athéniens qui conduisirent cette opération secrète, Hipparchos et Mnésidémos. Or, il s'avère que ce dernier, ce Mnésidémos, était le propre frère d'Aristaïdès de Lamtraï, honoré par le décret inédit de Ramnonte. Et l'on voit aujourd'hui que les deux hommes avaient étroitement collaboré lors de l'attaque victorieuse contre la garnison du Mouséon en ville d'Athènes en 287. Mais l'affaire du Pirée, elle, se termina dans un bain de sang, le commando des conjurés étant tombé dans une espèce de guet-apens. Mnésidémos lui-même, premier nommé ici, fut au nombre des quelques 400 victimes. Cet échec dut évidemment tempérer pour un temps l'ardeur guerrière des Athéniens. Les documents de cette époque attestent toutefois la permanence de leur volonté de récupérer le Pirée. Ainsi, très explicitement, dans un décret de l'été 284 pour le roi Odoléon de Péonie chez les Thraces. D'un autre décret, pris quelques mois plus tôt, ressort aussi leur conviction de pouvoir, à brève échéance, disposer du port et de ses installations. En effet, dans l'inscription votée pour Spartocos, roi du Bosphore cimérien, la lointaine Crimée, on accorde à ce prince étranger l'honneur peu banal de deux statues, l'une à ériger sur l'Agora, la chose est sûre, et l'autre en un emplacement que l'on a cru être l'Acropole, en Acropolei, mais ce n'est qu'une restitution, et partout admise. Mais nous avions montré l'an dernier en séance de séminaire que ce supplément à y regarder de près n'était pas acceptable. En réalité, c'est dans l'Emporion qu'on prévoyait de dresser la seconde stèle, Hetaera Eikon, la seconde statue, portrait, comme cela avait été fait autrefois pour ses ancêtres, ses progonoi. Autrement dit, dans l'hiver 285-4 déjà, les Athéniens pouvaient raisonnablement escompter avoir bientôt accès au port marchand. De fait, le temps travaillait pour eux, car en 283, le roi Démétrios avait fini par mourir dans sa prison dorée de Syrie. Il est vrai qu'Anchidion Gonatas, son fils, en tant que lieutenant général, avait d'ores et déjà la haute main sur les possessions du Pirée, de Corinthe, de Chalcis. Mais il n'en était pas moins dans une bien mauvaise posture. Ne parvenant toujours pas à rétablir l'autorité paternelle sur le royaume de Macédoine, qu'avait confisqué alors le roi Lysimaque de Thrace. À Athènes, on ne pouvait manquer de tabler sur les embarras du rejeton des Antigonides. L'espoir d'un retour très prochain du Pirée dans le giron athénien est manifeste dans un décret trouvé sur l'Agora en 1938, qui a l'avantage d'être intact et daté fort précisément de la 7e prytanie de l'Archonta de Nicias, soit du tout début de l'année 281. Ce décret, chose intéressante, honore l'archonte éponyme de l'année attique écoulée, donc 283-2. Eutios. Eutios est une forme un peu rare à côté du banal Eutias. Le peuple ne se contente pas de lui octroyer dans l'immédiat une couronne d'or, mais décrète que pourra être votée à ce magistrat une autre récompense quand, je cite, le Pirée et la ville seront réunis, se trouvant, comme dit le décret, dans un même ensemble. Otan o Piraeus, kai to astu, entoi oitoi, genetai. En 1979, mon cher collègue, confrère et ami Philippe Gauthier, excellent connaisseur des institutions grecques et attiques en particulier, a publié un fort bel article sur la signification et la portée de ce document, fixant d'une manière définitive, en alléguant des parallèles épigraphiques et littéraires, le sens qui avait été méconnu peu auparavant par un très honorable épigraphiste italien, de l'expression « ento autoi », marquant indiscutablement l'idée d'un tout à reconstituer, non pas d'une mainmise du peuple sur le Pirée et sur la ville, comme si Athènes avait été à cette date dépourvue, privée de toute souveraineté. D'autre part, il montrait que si cette inscription mettait hors de doute, ça, clair, au cœur de cet hiver 282-281, la ville et son port étaient encore séparés, la réunification espérée devait être, dans l'esprit des autorités athéniennes, une question de peu de mois. Car il eût été malséant de renvoyer au calende grec, si l'on peut dire, les honneurs promis aux très méritants archonte Eutychos. Par conséquent, c'est dans le courant de cette même année 280 que dut avoir lieu, selon Gautier, le retour du Pirée dans le giron athénien, retour qui aurait pu être négocié à prix d'argent. Cette solution paraît aujourd'hui d'autant plus raisonnable qu'un arrangement financier eut manifestement lieu et à peu près au même moment dans le cas d'Eleusis, comme on vient de le voir. Et à cela s'ajoutent deux faits très notables marquant l'année archontale 282-1. D'un côté, une augmentation des effectifs de la cavalerie athénienne, qui, effectif, qui était tombée très bas dans les années précédentes, pour pouvoir, et donc augmentation qui est destinée à subvenir aux nécessités de la conjoncture présente, dans toute la mesure du possible, dit le décret, epitou parentos catatodunaton. De l'autre, la désignation, au début de l'été 282, de deux agonothètes au lieu d'un seul en temps normal, choisi parmi les personnalités les plus en vue de la cité, Phaedros, frère de Callias, et Glaucon, frère de Crémonides, comme si l'on avait pu à cette date compter sur une célébration particulièrement solennelle des grandes Panathénées. Mais sur ce point, il fallut déchanter une fois de plus, puisque justement, le retard survenu dans les négociations sur le Pirée devait amener, selon moi, à un nouveau report de la fête quadriennale en l'honneur d'Athéna Archégétis. Ainsi serait résolue, de manière satisfaisante, voire élégante, l'irritant problème du statut du Pirée. Mais, l'article de Gautier, jouant un peu de malchance, n'a pas eu tout à fait l'écho mérité. D'abord, parce que sur un point de chronologie attique, la question de l'archonte Nicias, Eustéros, on l'avait vu, le savant français a défendu une position qu'il est permis de juger contestable, chose qui a pu nuire à la démonstration d'ensemble. D'autre part, Gautier n'a pas cru devoir, ou simplement pouvoir, découvrir le moment où nécessairement, avant 268, Athènes perdit à nouveau le contrôle de son port. Cela a été perçu comme une faiblesse de la reconstitution proposée. Enfin, et peut-être surtout, cette année, cet article a été publié dans la Revue des études grecques l'année même où, en 1979, paraissaient les si importantes Untersuchungen de Christian Habicht, qui certes font également une place à ce décret pour l'archonte Eutychos, mais en ne lui accordant, en définitive, qu'une bien modeste portée historique. Selon l'historien allemand de Princeton, en effet, il n'y aurait pas grand-chose à en tirer pour le sort du Pirée, puisque l'espoir des Athéniens, après tout, avait pu se révéler trompeur jusqu'au bout, et que le brave Eutychos avait peut-être attendu en vain le surcroît d'honneur qu'on lui promettait un peu imprudemment pour le jour tant espéré de la réunification qui ne se serait jamais produite, plus exactement, n'aurait été réalisée que bien plus tard comme conséquence de la capitulation de 262. On comprend ainsi la perplexité des chercheurs face à ce dilemme, même si la plupart paraissent avoir choisi le camp de la tranquillité en niant avec plus ou moins de conviction la possibilité d'un retour du Pirée en main athénienne à cette époque. En fait, la position réservée, ou même résolument négative de Habicht, n'aurait sa pleine justification, me semble-t-il, que si l'on pouvait démontrer la permanence du statu quo après 280, en mettant en avant des indices susceptibles de prouver que le Pirée était encore et toujours en main macédonienne dans les années 270. Or, j'essaierai de montrer la semaine prochaine, en examinant le problème des causes de la guerre de Crémonides, que tel n'est assurément pas le cas. Aujourd'hui, je voudrais faire valoir encore, en faveur de la thèse défendue par Gautier, qu'avec certaines nuances, je partage depuis bien longtemps, deux ou trois arguments supplémentaires. Un premier indice, encore un peu ténu, mais qui me paraît revêtir un réel intérêt, d'autant plus qu'il n'a guère été exploité, et pas en tout cas pas sous cette forme, c'est que le Patriet Democharès de Leuconoé, encore une fois un des principaux artisans à n'en pas douter de la politique de reconquête après 286, s'empressa de proposer, au lendemain de la récupération d'Éleusis, précédant sans doute de très peu celle du Pirée, un décret octroyant les plus grands honneurs pour son défunt oncle, l'illustre Démosthène, décédé 40 ans plus tôt, je cite, « victime de son dévouement à la cause de la démocratie ». Je crois que vous avez ce texte dans votre dossier. C'est ainsi qu'une statue de bronze du grand orateur fut érigée, alors seulement sur l'Agora, puis transportée ensuite au Prytanée. On en conserve une copie quasi assurée de belle facture. D'après le pseudo-Plutarque, le décret honorifique proposé par Démocharès fut pris sous l'archontin de Gorgias, Epi Gorgiou Archontos. Cet archonte, antérieur de 10 ans, selon le même auteur, à celui de Pitaratos, sous lequel Démocharès lui-même fut finalement honoré par les Athéniens, a pu être placé assez aisément en 280-279. Pardon, il y a peut-être une liste là. Excusez. Peu importe. Et c'est là, c'est donc à cette place, 280-279, qu'il niche, peut-on dire, depuis lors, un peu à l'abri des intempéries qui agitent périodiquement la chronologie attique du IIIe siècle. Mais voici qu'en 2007, un épigraphiste australien, Byrne, s'est posé quelques questions à propos de ce paisible archonte. Il s'étonne à juste titre, encore que ce ne soit pas là un cas totalement unique, que le ci-devant Gorgias n'apparaisse en tant qu'archonte éponyme dans aucune inscription attique à ce jour, alors que son voisin de palier, si l'on peut dire, l'archonte qui le précède immédiatement dans cette série, à savoir le dénommé Ourias, est d'ores et déjà attesté, lui, par plusieurs documents. N'y aurait-il pas dû, alors, confusion entre les deux? De fait, on peut se demander si dans le texte du pseudo-Plutarque, il ne faudrait pas lire « Epi Ouriou Archontos », un copiste médiéval ayant buté sur le nom Ourias, qui est d'une rareté insigne. C'est un « apax legomenon », comme on dit, dans l'onomastique attique et même grec. Et l'aurait remplacé donc par le banal « Gorgias »,« Epi Gorgiou ». L'hypothèse me semble, en tout cas personnellement, fort séduisante. Elle aurait dès lors pour conséquence, sur le plan chronologique, que la statue de Démosthène, ayant été votée sous l'archontat de Ourias, non plus de Gorgias, qui est un insaisissable fantôme, daterait de l'année 281-0 déjà. Autrement dit, c'est à ce tournant de l'histoire hellénistique, dans l'année suivant immédiatement la bataille des rois de l'Asie, à Couropédion, que Démocharès se serait empressé de faire reconnaître par Athènes, enfin réunifiée, désormais une et indivisible, les éminents services rendus jadis par l'orateur, dont toute la politique, on le sait, s'était opposée à l'impérialisme macédonien. Indirectement, donc, cette statue emblématique témoignerait de l'enthousiasme immédiat suscité par la récupération en 281 des forteresses d'Éleusis puis du Pirée. Or, il y a au moins un autre témoignage épigraphique qui je vais dans le mauvais sens, pardon. Voilà. Il s'agit d'un décret assez célèbre, traduit en français dans le nouveau choix d'inscription grecque, sous le numéro 2, qui, au mois de Metageithnion, Archonta de Ourias, vers la fin de l'été 281, tient à honorer les taxiarches, c'est-à-dire les commandants des régiments d'infanterie, au retour du voyage qu'ils viennent de faire en Béotie pour représenter la cité lors de la grande fête des Basileia, célébrée à Lébadée par la Confédération béotienne en l'honneur de Zeus roi. Cette participation n'est pas banale, pas banale du tout, puisque les représentants d'Athènes ont été associés au sacrifice du Sia qui a été fait là pour la santé et le salut du conseil et du peuple d'Athènes. On a pu s'étonner que les taxiarques députés à Lébadée n'eussent été que 6, tous du reste d'excellentes familles, alors que le collège comptait autant de membres que de tribus à cette époque, soit 12. C'est en réalité le signe que les taxiarques en fonction avaient aussi d'autres tâches à accomplir et qu'une moitié d'entre eux devait pourvoir à toute éventualité si quelque ennemi surgissait à l'improviste en cette fin de la belle saison. Car l'année 281 n'avait pas été spécialement tranquille, on l'a laissé entendre. Elle qui avait commencé par l'annonce de la victoire en Asie du grand Séleucos Nicator, puis à peine quelques mois plus tard, l'annonce de son assassinat en Macédoine, le vieux roi ayant, entre-temps, juste le temps, semble-t-il, de rétrocéder aux Athéniens les îles de Lemnos et d'Imbros. D'autre part, et surtout, il y avait eu, pensons-nous, en Attique même, la main mise sur le Pirée par des moyens certes plus diplomatiques que militaires. Mais l'armée athénienne avait dû néanmoins y avoir sa part, ne serait-ce que par son existence et sa détermination à en découdre au besoin. C'est peut-être ainsi, en fin de compte, qu'il faut comprendre un passage de Pausanias que... voilà ici le tableau avec les deux archontes qui se suivent, Ourias et Gorgias. Un passage de Pausanias que vous avez dans votre dossier, que je n'ai pas voulu... allégué jusqu'ici, comme Gautier déjà, tant il a fait l'objet d'interprétations contradictoires. Selon le Périégète, en effet, l'homme d'État athénien, Olympiodoros, n'aurait rien accompli de plus beau, Megiston Ergon, que la prise du Mouséion lors du soulèvement de 287, mis à part ce qu'il fit en sauvant le Pirée et Munichi, Horis Touton on epraxe peirea kaimunikian anasodzomenos. Avec un immense talent, Christian Habicht a défendu l'idée que ce sauvetage du port et de sa forteresse n'aurait rien à voir avec les événements de la fin des années 280, mais remonterait à une phase beaucoup plus ancienne de la carrière d'Olympiodoros, quand celui-ci, avant 304, aurait empêché le roi Cassandre de s'emparer du Pirée et de sa forteresse. La thèse est très astucieuse, mais se heurte néanmoins à un problème de langue qui n'a pas échappé à certains, à savoir que le verbe anasodzein ou anasodzestai ne signifie pas normalement conserver en sécurité, ce qui est le sens d'un autre composé diasodzein, mais bien recouvrer quelque chose ou quelqu'un qui était perdu. Je crois donc plus raisonnable d'admettre que le vieil Olympiodoros, en raison de son prestige militaire, se vit bel et bien confier le rôle, un rôle peut-être impossible à définir exactement pour le moment, dans la reprise du Pirée en 281. Ce qui me semble plus probable, en tout cas, c'est que l'affaire exigea non seulement du temps, on l'a vu, mais aussi des moyens considérables et des apports extérieurs. Or, l'un de ces appuis a été, je crois, Ça n'ira pas. Je terminerai rapidement. Un de ces apports a été méconnu. Dès 1992, pourtant, j'avais indiqué de manière brève, trop brève, visiblement, qu'une très remarquable inscription béotienne du musée de Thèbes conservait, malgré sa mutilation, les pauvres restes d'un décret d'Athènes suivi d'un décret un peu moins amputé de la cité même de Thèbes, en dialecte béotien, qui ne devait pas être rapporté, comme on l'avait fait jusque-là, à l'année 229, quand Athènes eut à payer une assez lourde somme pour se libérer de la tutelle macédonienne, mais qu'au vu de la gravure typique du début du IIIe siècle, il fallait la mettre en relation avec les années 280, puisque les Thébains s'étaient eux-mêmes libérés depuis quelques années de la lourde tutelle de Démétrios, et qu'ils avaient donc bien pu vouloir venir en aide au peuple d'Athènes, aspirant, comme le dit le décret, à quelque chose, epei, epidei, epitemeno, to damo, athaneion, je pense, te, eleuterie, à la liberté, ainsi que je l'avais suggéré alors. Il est en effet frappant de constater que ces bribes, lesquelles je passe vite, d'inscription, évoquent des gens qui ont été laissés au Pirée, et qu'il est question de restituer Mounichi, avec le fameux verbe komizo, komizestai, qu'il est question de bienfaits antérieurs, de sommes d'argent, krémata, de porc, limenas, de relations d'amitié entre les deux peuples, etc. Et dans les décisions prises par le peuple de Thèbes, pour répondre à toutes les demandes émanant du peuple d'Athènes, par l'intermédiaire du conseil de l'Aréopage, le versement d'un montant, plus d'un talent, et tout cela afin que demeure l'amitié, opos diamenei, ou ka diamenei a filia, entre les deux peuples. Sans oublier même un nom de moi, Prostaterios, le troisième de l'année béotienne, correspondant à notre mois de mars. Faut-il alors penser, je finis par là, que l'on est en mars 281, un mois environ après la bataille de Kouroupédion en Asie mineure, trois mois après qu'on eût fait à l'excellent archonte Eutychios la promesse qu'il aurait un petit supplément de récompense quand le Pirée et la ville ne feraient qu'un, donc à la veille de cet événement lui-même, sans oser aller jusque-là, pour le moment, je ne puis que réaffirmer ma conviction que cette inscription tantalisante, comme aiment à dire nos collègues anglo-saxons, se rapporte bien à cette conjoncture et certainement pas à l'autre, plus tardive, d'un demi-siècle. On verra tout à l'heure au séminaire un autre document encore qui pourrait se rapporter à cette conjoncture de 281. Je vous remercie.